Alarm phone, hello.
Hola.
Salam alaikum.
Allô, bonjour.
Alarm phone,
c'est Alarm phone.
How are you, my friend?
Estás, amigo?
How many are you on
can
the
you hear me?
Est-ce que vous m'entendez?
Okay, can you,
Benny, do you,
can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique à
chronique
mère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm phone.
Freedom, I don't meet him. Where's your freedom?
Combien de personnes êtes-vous sur le bateau?
Can you hear me?
What kind of boat are you on?
Me
puedes dar posición?
How many are you on the boat?
Keep calm, keep as calm as you can.
Okay, I call you back.
ما هو لون القارب?
Maybe try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2024, 12 500 personnes sont mortes ou disparues en traversant.
1041 personnes par mois.
240 personnes par semaine.
34 personnes par jour.
Plusieurs milliers de personnes sont emprisonnées.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 34e épisode de Chronique amère, une chronique mensuelle où on parle de ce qui se passe aux frontières maritimes de l'Europe. Et toujours, depuis Alarm Phone. Le mois dernier, mi-septembre 2025, Alarm Phone a participé à la mobilisation de Flota, en Méditerranée centrale. Flota, c'était une grande action d'occupation de la mer pour lutter contre les frontières et défendre la liberté de circulation pour toutes et tous. À Marseille, on a organisé une manifestation à terre et sur l'eau, ainsi qu'un plateau radio en plein air pendant toute une après-midi. Une partie de l'équipe de Chronique amère était présente et on s'est dit que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas parlé de la région de la Méditerranée centrale. Alors, même si la situation dans cette zone change souvent, on avait envie de partager avec vous des éléments pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans cette zone, où les frontières sont toujours le sombre théâtre de politiques racistes. On avait envie de raconter ce que les gouvernements mettent en place pour protéger la forteresse Europe, les conséquences de ces mesures pour les personnes en mouvement, et comment, malgré tout, elles continuent à trouver des brèches pour traverser les frontières. Attention, parce que la situation aux frontières est dure et violente, certains passages peuvent être difficiles à entendre.
L'Europe se barricade toujours plus et met tout en œuvre pour que certaines personnes n'arrivent pas jusqu'à ses frontières. Empêcher ces personnes d'arriver, c'est déjà essayer de les empêcher de partir. Les empêcher de prendre ou de continuer leur route, alors qu'elles sont parfois encore bien loin. Pour ça, l'Union européenne délègue cette responsabilité à des États du Sud. À coup d'accord et de centaines de millions d'euros versés, elle leur confie la tâche d'empêcher les gens de voyager par tous les moyens. C'est ce qu'on appelle l'externalisation des frontières européennes.
En Tunisie, on a un exemple très simple. Pratiquement, on reçoit beaucoup d'équipements. On reçoit beaucoup de gens, beaucoup d'équipements, on reçoit de training, entraînement pour la garde-côte, la garde nationale, et aussi des bateaux d'interception. Genre, comment la garde nationale tunisienne est équipée? Elle est équipée pour intercepter. Par contre, quand il y a des moments où on avait des personnes disparues, où on a demandé aux autorités tunisiennes de faire des missions, soi-disant, de search and rescue, de sauvetage et recherche, ils n'avaient pas les moyens. Et du coup, ça, c'est le premier aspect, recevoir l'argent, recevoir l'équipement. On reçoit beaucoup de drones qu'on n'avait pas. Donc, on a beaucoup de drones. On reçoit aussi un système de capter aussi les téléphones au niveau de la mer. Donc, tous ces assets de surveillance, de technologie, ça, on le reçoit par l'Union européenne. Pratiquement, c'est un accord qu'on va recevoir 105 millions d'euros pour des équipements pour interception en mer. Et l'autre aspect aussi, c'est les drones et la formation. Il y a beaucoup de de preuves qu'ils font des formations pour comment intercepter, comment coordonner avec les autorités européennes l'interception de façon plus efficace. Alors, les personnes qui sont interceptées, généralement, par exemple, on parle de modèle Sfax. Le premier scénario, c'est de sera où les gens sera et ils sont expulsés vers le désert. Pratiquement, ils arrivent à un niveau, ils laissent les gens, ils les dégagent. Genre, les bus vont au désert et bougent les, et disent aux gens d'aller vers la Libye. L'autre scénario, genre, ça c'est le premier bus. Deuxième bus, quand c'est rempli, ils vont vers la frontière tuniso-algérienne. Et là aussi, les gens sont expulsés dans cet côté, qui généralement ce sont des montagnes là-bas. Donc là-bas, les gens et l'accès à ces gens-là, c'est un peu difficile. Aussi, l'externalisation a touché le nouveau social et le nouveau médiatique. C'est un peu bizarre d'expliquer, c'est un peu difficile, mais il y a cette sensation qu'on n'avait pas avant. Parce que 2011, par exemple, quand on a reçu beaucoup de réfugiés, de personnes en mouvement de la Libye, on avait des camps, genre en Tunisie, on avait 1 million de personnes. Toute la population a aidé. Et cette dynamique de solidarité, maintenant, elle est complètement tuée. Donc il y avait genre un pays qui est mobilisé à aider les réfugiés. Et ça, maintenant, on n'a pas. Donc là, ces narrations-là, je pense aussi que c'est trop lié à l'externalisation qui ne s'arrête pas à donner des équipements ou des bateaux d'interception ou des drones de surveillance ou un système de surveillance ou une coopération avec Frontex que la Tunisie a dit non, non. Mais aussi, elle se manifeste aussi dans d'autres aspects.
Currently, there is a big number of migrants, refugees and asylum seekers in Libya, and particularly with a large and growing number of Sudanese refugees. Many migrants attempt to cross the Mediterranean.
Il y a actuellement un grand nombre de migrants, de réfugiés et de demandeurs d'asile en Libye, et notamment un nombre important et croissant de réfugiés soudanais. Beaucoup de migrants tentent de traverser la Méditerranée depuis la Libye pour fuir les exactions dont ils sont victimes et trouver refuge en Europe. Mais la majorité d'entre eux sont interceptés et renvoyés en Libye, où ils sont enfermés dans des centres de détention, où les conditions sont vraiment très mauvaises. Ils sont également victimes d'abus de la part des trafiquants et des milices, et exposés à la torture, au travail forcé, aux abus sexuels et à la mort.
The EU is deeply involved in shaping Libya's migration control system. The Memorandum of Understanding between Italy and Libya is a deal.
L'Union européenne est profondément impliquée dans l'élaboration du système de contrôle des migrations en Libye. Le protocole d'accord entre l'Italie et la Libye est un accord qui a été signé pour la première fois en février 2017. Son objectif principal est le contrôle des frontières, ou de ce qu'ils appellent la migration irrégulière à travers les frontières terrestres et maritimes. L'Italie s'engage à fournir diverses formes de soutien à la Libye, notamment du matériel de recherche et un soutien financier qui servent à former des milices, à construire des centres de détention et à mener des opérations de refoulement en mer.
Since this deal was made, the violations against humanity have increased in the sea and on the land. Thousands of people
depuis la conclusion de cet accord, les violations des droits humains se sont multipliées en mer et sur terre. Des milliers de personnes sont mortes en mer à cause des attaques menées par les gardes-côtes libyens contre les bateaux de migrants lors des opérations d'interception. D'autres meurent dans les centres de détention après avoir été refoulés.
That's why Refugees in Libya launched a campaign.
C'est pourquoi Refugees in Libya a lancé une campagne contre cet accord meurtrier, appelant l'État italien à mettre fin à la prolongation de ce mémorandum avec la Libye, qui sera renouvelé automatiquement en novembre.
Le 4 août 2025 à 13h, Alarm Phone reçoit un message sur Twitter d'une personne dont le frère est parti de Libye 2 jours auparavant. Le bateau a quitté Benghazi, en direction de Crotone en Italie, avec 37 personnes du Bangladesh à bord. Elles sont depuis plus de 60 heures en mer. La personne qui nous contacte arrive de temps en temps à rentrer en communication avec elle grâce au téléphone satellite, mais la communication est difficile. 14h34. Après plus d'une heure à essayer de joindre les personnes sur le bateau pour obtenir une position GPS, nous décidons quand même d'envoyer un mail d'alerte aux autorités avec toutes les informations que nous avons, malgré l'absence de localisation. Nous appelons les autorités italiennes, qui nous confirment avoir bien reçu notre mail, mais qu'ils ne peuvent rien faire sans position GPS, alors que nous savons pertinemment qu'ils peuvent localiser un téléphone satellite. 17h20, nous recevons un appel du bateau. La connexion est très mauvaise. Nous entendons la voix d'une femme, mais rien n'est vraiment audible. 18h23, nous recevons des nouvelles du frère qui nous a prévenus. Il a pu joindre le bateau et obtenir des coordonnées GPS. Bonne nouvelle, le bateau est dans la zone de recherche et secours maltaise. Mauvaise nouvelle, les deux moteurs sont cassés, ils n'ont plus de gasoil, le bateau est à la dérive et la météo se dégrade. Nous transmettons cette position et la situation du bateau aux autorités italiennes et maltaises par mail et leur demandons d'intervenir au plus vite. Nous appelons les autorités italiennes pour s'assurer qu'une opération de secours est bien engagée, mais ceux-ci nous répondent.
Le bateau est dans les eaux maltaises, donc nous ne sommes pas responsables du sauvetage.
Nous essayons de joindre Malte, mais aucun numéro ne fonctionne. 19h52, nous recevons un nouvel appel du bateau, avec une position très proche de l'ancienne. Cette fois, la personne nous dit que le bateau ne peut plus avancer, et qu'ils n'ont plus d'eau ni de nourriture. Ils sont désespérés et crient à l'aide. Nous rappelons les autorités maltaises. Cette fois, ils nous répondent mais nous disent qu'il faut leur envoyer un mail, ce que nous avons fait déjà 2 fois. Devant l'inaction des autorités, nous commençons à chercher des contacts de navires marchands qui se trouveraient proches. 21h04, nous recevons un mail du bateau de secours civil solidaire. Il informe les autorités qu'il va se rendre à la dernière position de notre bateau, mais il a 70 miles nautiques. Il ne pourra être sur place que le lendemain dans la matinée. L'équipe de permanence passera la nuit à tenter de joindre le bateau en détresse, mais la connexion est trop mauvaise pour communiquer avec les personnes à bord. Le lendemain, 10h16, nous recevons un message du frère qui nous dit qu'il a perdu contact avec le bateau depuis 3h cette nuit. 12h51, nous recevons un mail de Solidaire qui est arrivé sur place mais ne trouve rien.
Nous mettons fin aux recherches concernant l'AP-863/SOL-1 et reprenons notre navigation vers le sud. Nous précisons qu'aucune communication n'a été reçue de votre RCC tout au long de cet incident, malgré nos offres d'assistance répétées.
De notre côté, nous sommes très inquiets. Nous n'arrivons toujours pas à joindre le bateau. Nous ne savons pas ce qui est arrivé aux personnes à bord, ni pourquoi Solidaire ne les a pas trouvés. 19h56. Nous recevons par mail le rapport de vol de Seabird. Lors de ses recherches, il a repéré le bateau libyen Tarek bin Zayed, avec une quarantaine de personnes à bord et 2 moteurs démontés sur le pont. Il confirme que d'après lui, il s'agit des passagères de notre bateau qui ont été interceptées par le TBZ et ramenées en Libye, alors même qu'ils se trouvaient en Sarmaltaise, plus de 50 km au nord de la zone d'intervention libyenne.
Le Tarek bin Zayed, c'est le bateau d'une milice libyenne du même nom. La milice du fils du général Haftar, qui contrôle l'est du pays. Une milice accusée d'exactions par Amnesty International à de nombreuses reprises. Comme on l'a entendu dans le récit, les interceptions par les Libyens, gardes-côtes ou milices, ont lieu parfois très au nord dans la zone sarmaltaise, soit bien loin de leur propre zone de responsabilité. Ce qu'il se passe, c'est que non seulement Malte ne secourt plus aucun bateau depuis 2020, mais l'île européenne organise de manière on ne peut plus illégale des pushbacks dans sa zone SAR, autorisant les Libyens à y pénétrer. On soupçonne également l'existence d'un accord secret entre Giorgia Meloni et le général Haftar derrière les interventions du TBZ. Cette politique des interceptions est un des leviers de l'externalisation des frontières européennes. Frontex scrute la mer avec des drones et des technologies sophistiquées coûtant des milliards d'euros. Il informe ensuite les gardes-côtes libyens ou tunisiens qui interceptent les voyageuses grâce aux vedettes ultra-rapides fournies par l'Union européenne. Ces interceptions sont en fait le plus grand risque encouru par les personnes qui tentent de traverser la Méditerranée centrale. En 2024, plus de 21 000 d'entre elles ont ainsi été refoulées vers la Tunisie et la Libye, avec les conséquences qu'on a entendues plus tôt. Quant à celles qui parviennent de l'autre côté, elles font face à une criminalisation toujours plus forte. Les prisons italiennes, grecques, espagnoles, mais aussi françaises et anglaises, sont pleines de personnes accusées d'avoir conduit les bateaux sur lesquels elles ont traversé. Autre levier, encore, pour empêcher les personnes en mouvement de parvenir en Europe, les mesures de rétorsion contre les bateaux de secours de la flotte civile continuent de fleurir.
The Piantedosi decree was one of the first acts by the.
Le décret Piantedosi a été l'un des premiers actes de ce nouveau gouvernement.
It became law at the beginning of 2023.
Il est entré en vigueur au début de l'année 2023. Donc l'idée était de trouver pour le gouvernement un outil permettant de ralentir et de menacer, mais pas officiellement de bloquer les opérations de recherche et de sauvetage menées par la flotte dite civile.
And it is basically containing some more or less neutral rules.
Et il contient essentiellement des règles plus ou moins neutres, comme l'obligation de ne pas mettre des personnes en danger pendant les opérations de sauvetage, l'obligation d'atteindre immédiatement le lieu sûr désigné ou l'obligation d'informer les personnes secourues de la possibilité de demande d'asile, etc.
That must be respected with the consequence in case of violation of administrative sanctions.
Ces règles doivent être respectées sous peine de sanctions administratives qui consistent essentiellement en des amendes et des détentions temporaires des navires qui peuvent devenir une confiscation permanente en cas de répétition de l'infraction.
The way how the Italian authorities then applied this law is basically and explicitly meant to obstacle.
La manière dont les autorités italiennes ont ensuite appliqué cette loi vise essentiellement et explicitement à entraver, ralentir et, en fin de compte, rendre impossible la poursuite des activités des ONG de recherche et de sauvetage.
This is because of a combination of factors, including the practice of.
Cela s'explique par une combinaison de facteurs, notamment la pratique consistant à attribuer des ports pour débarquer les personnes secourues dans le centre et le nord de l'Italie.
Important problems to NGO ships.
Cela pose des problèmes importants aux navires des ONG qui sont obligés de naviguer pendant de nombreux jours très loin de la zone où ils opèrent habituellement, au centre de la Méditerranée. Les conséquences de la loi Piantedosi sont considérables pour les activités de sauvetage civil et les ONG de recherche et sauvetage.
It is very common for rescue ships to be stuck in ports for usually.
Il est très courant que les navires de sauvetage soient bloqués dans les ports pendant généralement 20 jours, parfois 60, avec la possibilité, comme je l'ai dit, de prolonger indéfiniment cette durée en perdant le navire.
We are at the flotta sea occupation of the Mediterranean.
There's about 10 boats protesting.
Protesting the death by the European border regime and demanding a sea for everyone.
Je suis infirmière sur l'Ocean Viking et je vais vous raconter l'attaque qu'on a vécue à bord il y a quelques semaines. L'attaque a eu lieu le 24 août. Ce jour-là, on avait fait deux sauvetages. On avait donc à bord avec nous 87 personnes et on était à la recherche d'une troisième embarcation en détresse. Donc on était engagés dans une opération de sauvetage. On était à environ 70 km au nord des côtes de la Libye, en eau internationale, à l'est de Tripoli. Au moment de l'attaque, c'est un bateau des gardes-côtes libyens, un bateau Columbia Class, qui a été donné par l'Italie à la Libye en 2023, qui fonce sur l'OVI, qui nous ordonne de quitter la zone et de nous diriger vers le nord, et qui, sans sommation, commence à ouvrir le feu. Quand les tirs commencent, on aide les personnes à se mettre à l'abri, à rester au sol. Nous, pareil, on se met à l'abri. Et ces tirs, ils ont duré une vingtaine de minutes. Personne n'a été blessé physiquement. Les balles n'ont atteint personne, mais il y a eu des dégâts matériels sur le bateau et aussi sur nos équipements de sauvetage, notamment nos trois semi-rigides qui nous permettent de faire le sauvetage, qui sont plus opérationnels. Pendant qu'on se faisait tirer dessus, on a essayé d'appeler ITMRCC, on a eu Rome au téléphone, on leur a demandé de contacter Tripoli pour leur dire d'arrêter, d'appeler le patrouilleur pour qu'ils arrêtent de nous tirer dessus. Ils ne l'ont pas fait. Suite à ça, on a dû quitter la zone et on ne sait pas ce qui est arrivé aux personnes qui étaient à bord de l'embarcation qu'on était en train de chercher au moment de l'attaque. On a ensuite débarqué les 87 personnes à Augusta, en Sicile, et depuis, l'OVI est arrêté là-bas puisqu'il n'est plus en état de naviguer et notre matériel de sauvetage n'est plus opérationnel. La suite maintenant, c'est notamment une procédure pénale pour essayer d'établir la responsabilité de la chaîne de commandement des gardes-côtes libyens et des États qui les forment et qui les financent, sachant que cette attaque, ce n'est pas un acte isolé et ce n'est pas la première fois que les gardes-côtes libyens se montrent menaçants envers des bateaux d'ONG. Mais surtout, les premières personnes exposées à cette violence, c'est les personnes qui tentent la traversée de la Méditerranée et qui témoignent de la violence des gardes-côtes libyens qui sont directement financés et soutenus par l'Union européenne.
En Méditerranée centrale, depuis 2024 environ, l'Alarmphone a commencé à recevoir des appels depuis une nouvelle route de traversée vers l'Europe. Depuis les alentours de Tobrouk, ville libyenne près de la frontière avec l'Égypte, jusqu'à l'île grecque de la Crète.
It's not really a new route. It has been there for decades, basically.
Ce n'est pas vraiment une nouvelle route. Elle existe depuis des décennies. En fait, c'est lié à tout le contexte européen dans lequel certaines routes se ferment ou sont rendues plus dangereuses, plus difficiles, et les gens trouvent en permanence de nouvelles routes, comme celle-ci qui est donc réapparue. Au niveau des chiffres, je pense que cette année, à la mi-septembre, environ 13 000 personnes avaient traversé là, soit 4 fois plus que l'année dernière. Les soi-disant gardes-côtes libyens et toutes les autres milices de l'ouest de la Libye sont assez actifs et sont financés par l'argent européen et italien. Tandis que dans l'est de la Libye, comme le pays est toujours divisé et sous le gouvernement Haftar, ces accords n'ont pas encore été conclus. Et cette route fait environ 500 km, donc difficile. Un peu plus longue que celle qu'on connaît qui part de l'ouest de la Libye en direction de Lampedusa. Il n'y a pas de bateau de secours civil, pas d'ONG active, et les gardes-côtes grecs ne sont pas super présents. Du moins, pas avec des bateaux, et ils ne vont pas très loin vers le sud. Du coup, souvent, ce sont des navires marchands qui interviennent, de gros porte-conteneurs qui ne sont pas équipés pour faire des sauvetages dans de bonnes conditions. Ce que la Grèce a fait, en gros, c'est de suspendre son système d'asile, la loi sur l'asile en Grèce pour les personnes originaires d'Afrique du Nord. Ces personnes doivent simplement quitter le pays dans un certain délai, sinon elles risquent une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. En plus de ça, il y a des négociations en cours avec la Libye pour avoir une certaine influence sur les milices qui sont les seules à pouvoir empêcher les départs. Dans le même temps, Frontex a accentué sa présence là-bas. Et maintenant, elle commence aussi à envoyer des bateaux depuis la Crète. Donc la surveillance est devenue plus intense, avec surtout de la surveillance aérienne pour organiser des interceptions et des pushbacks, des refoulements. اللي بيغار وكتار بيخلوا الحبة بتوزن الانطار
Dans Chronique amère, on parle le plus souvent des situations que l'on connaît via les appels reçus à Alimphone. Mais il est clair que l'on n'est informé que d'une très petite partie des voyages qui ont lieu. Dans les médias ou dans l'imaginaire collectif autour des traversées de la Méditerranée, les secours des bateaux ONG prennent beaucoup de place. Alors que des 65 500 personnes arrivées en Italie et à Malte en 2024, par exemple, seulement 12 500 ont été secourues par la flotte civile. La grande majorité des personnes arrivées en petits bateaux en Europe y parviennent de manière autonome, sans l'assistance d'acteurs extérieurs. Et les manières de traverser, les routes empruntées, sont constamment en train d'être réinventées. On pense à cette route vers la Crète dont on vient de parler, apparue après le naufrage de Pylos en 2023, dans lequel plus de 700 personnes ont disparu suite à la non-assistance des gardes-côtes grecs. Ce bateau-là était parti de Tobrouk en direction de la Calabre, en Italie. Route désarmée, modifiée et fortement écourtée, en direction de la Grèce. L'Union européenne peut bientôt mettre en œuvre pour renforcer ses barrières, fermer des routes et empêcher les traversées. Les gens continueront à se déplacer et à créer sans cesse de nouvelles brèches dans la forteresse.
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On voulait terminer cet épisode avec des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour toute l'équipe des pilotes volontaires qui a été sanctionnée par les autorités italiennes début septembre et qui, en plus d'une obligation de payer une amende de 100 000 euros, a vu son avion d'observation, le Colibri 2, immobilisé pendant 20 jours. Des pensées de solidarité pour toutes les personnes présentes sur l'Ocean Viking lors de l'attaque par les gardes-côtes libyens le 24 août dernier. Ceci n'est pas un acte isolé, mais le reflet de ce qui se passe quotidiennement pour les personnes qui traversent. Des pensées de solidarité pour toutes celles et ceux qui traversent la Méditerranée, celles et ceux qui arrivent, celles et ceux qui disparaissent. Toutes nos pensées aussi pour leurs familles et leurs proches. Des pensées de solidarité pour toutes celles et ceux qui continuent de lutter pour que la mer Méditerranée ne soit plus un cimetière. Merci à tous ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont participé, qui ont raconté, qui ont traduit, qui ont enregistré. Merci à Lucia, Salahadine, Chied, Yannick et Caro. Merci aussi à tous nos camarades d'Alamphone avec qui on mène ce combat tous les jours. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM, Radio Dio, Radio Galère et Canal Sud et la retrouver sur la plateforme Spectre. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alamphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez consulter le site Watch the Med ou celui d'Alamphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique amère. Et d'ici là, main sur le cœur et point levé.